La maladie n'a épargné personne à France Inter ce matin. Pas de Nicolas Demorand, pas de Marc Fauvel. On pense à eux. Sébastien Legénie, bonjour.
Bonjour Léa. À la une ce matin, l'entreprise Facebook sur le banc des accusés. Un ancien cadre proche du PDG dénonce le système et craint que le réseau dit social ne nuise justement à notre lien social. Une critique virulente qui a obligé le géant américain à réagir. Comment retisser le lien entre Paris et la province? Là, c'est le chantier très délicat du Premier ministre français, Édouard Philippe, et son gouvernement qui passe deux jours à Cahors pour la deuxième conférence nationale des territoires. Inégalité entre territoires, inégalité entre citoyens. À 8h20, France Inter dévoile en exclusivité les conclusions du rapport 2018 sur les inégalités mondiales avec deux invités, Léa.
L'économiste Thomas Piketty et le chercheur Lucas Chancel, invité de France Inter à 8h20. Vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000, mais aussi sur le Facebook Live de France Inter et sur Twitter avec le mot-clé le 7-9 d'Inter.
Construire des prisons en France coûte trop cher à l'État, c'est une conclusion de la Cour des comptes. Hier, les sages mettent en cause le principe des partenariats publics-privés. On vous explique tout dans un instant. Au programme également, une mosquée salafiste fermée à Marseille. Hollywood ne parle que de ça. Disney rachète la Fox. Et Charles Aznavour qui chante à Bercy devant un public conquis.
France Inter.
Facebook est-il une menace pour nos sociétés? La question donne le vertige quand on sait que le nombre d'utilisateurs atteint les 2 milliards d'individus, plus du quart de l'humanité. Une question qui n'est pas nouvelle, mais cette fois-ci, ce sont des figures éminentes de l'entreprise qui prennent la parole pour dénoncer la philosophie du réseau social le plus populaire au monde. Depuis cet été, plusieurs anciens cadres critiquent ouvertement les risques sur la démocratie, sur nos enfants. Dernière sortie en date, un des proches de Mark Zuckerberg accuse Facebook de déchirer le tissu social, une déclaration devenue virale sur Internet, obligeant le jeune PDG à enfin sortir de son silence. Yann Gallic.
Quand il parle de Facebook devant des étudiants californiens, Shamas Palihapitiya avoue ressentir une immense culpabilité. Entre 2007 et 2011, il a travaillé dans l'entreprise comme vice-président chargé de la croissance, de l'audience. Aujourd'hui, son jugement est sans appel. Nous avons conçu, dit-il, des outils addictifs qui détruisent le lien social.
Les boucles de réaction que nous avons créées sont basées sur la dopamine et détruisent le fonctionnement de la société. Ma solution, c'est de ne plus utiliser les réseaux sociaux. Je n'autorise pas mes enfants à utiliser cette merde. Vous n'en avez pas conscience, mais vous êtes programmés. Et maintenant, à vous de décider. Jusqu'où êtes-vous prêt à renoncer à votre indépendance intellectuelle?
Un constat également partagé par Sean Parker, l'ancien président de Facebook. Ce réseau social est devenu un outil d'influence considérable. Olivier Shade est chercheur en sciences de l'information.
Ce qui a beaucoup joué dans le déclenchement de cette crise de la quarantaine chez quelques ingénieurs de la Silicon Valley, c'est tout le débat qu'il y a eu autour du rôle qu'aurait joué Facebook pour faciliter entre guillemets l'élection de Donald Trump. On n'a jamais été confronté à un tel média de masse avec une capacité effectivement à influencer directement les gens et à polariser un certain nombre de points de vue dans l'opinion.
Face aux critiques, la direction de Facebook se contente d'une réponse laconique. Nous prenons notre rôle au sérieux, dit-elle, et nous travaillons dur pour essayer de nous améliorer.
Le reportage de Yann Gallic. Alors s'agit-il d'une première réponse à ces attaques sur son éthique? Facebook en tout cas a annoncé hier que l'entreprise compte désormais déclarer certains de ses revenus publicitaires dans les pays où il les gagne et non plus en Irlande, au taux d'imposition plus avantageux.
C'est depuis Cahors, dans le sud-ouest, que la France sera gouvernée aujourd'hui.
Presque tout le gouvernement y a passé la nuit. Édouard Philippe, entouré de 13 ministres et de leurs conseillers. Concrètement, le Premier ministre lancera aujourd'hui la deuxième conférence nationale des territoires, un forum de discussion entre l'État, les mairies, les départements, les régions. Opération séduction pour tenter de rassurer les collectivités territoriales inquiètes depuis l'arrivée de l'équipe Macron au pouvoir. Opération difficile pour le Premier ministre, Karine Bécart.
Officiellement, le Premier ministre Édouard Philippe est assez content d'avoir convaincu tout le monde de venir à sa deuxième conférence des territoires. Sauf que ce n'est pas exactement la réalité. Certes, les régions qui avaient promis de boycotter la réunion ont finalement décidé de calmer un peu le jeu. En revanche, les maires de France ne participeront pas aux discussions. Ils y assisteront, mais pas question pour eux d'intervenir ou de prendre position. Bref, l'État aimerait malgré tout avancer sur deux dossiers en particulier. Le premier concerne un plan que tout le monde attend depuis tellement longtemps sur le très haut débit. Et puis Édouard Philippe, second dossier, vient également négocier avec les 319 collectivités qui ne parviennent jamais, vous savez, à réduire leurs déficits ni à freiner leurs dépenses publiques. Édouard Philippe vient donc négocier les règles du contrat qu'elles vont devoir passer directement avec l'État. C'est peu dire que le sujet s'annonce extrêmement délicat. À Cahors, Karine Bécart, France Inter.
Au menu des annonces du gouvernement, le haut débit partout en France d'ici 2022. Comment faire des économies dans les grandes agglomérations et comment revitaliser les centres-villes, des centres-villes aux petits commerces souvent moribonds à cause des grandes surfaces. C'est en tout cas l'avis de Frédéric Chereau, le maire de Douai, 42 000 habitants. Il appelle le gouvernement à geler l'implantation de nouveaux supermarchés en périphérie des villes moyennes.
Tous les commerces qu'on crée en périphérie, avec des entreprises qui vous vendent toujours, évidemment, que ça va créer beaucoup d'emplois, que ça va attirer beaucoup d'activités. Non, la consommation n'augmente plus. Ça ne crée pas d'emplois, ça n'attire pas d'activités, ça déplace de l'activité commerciale. Et à 5 ans, à 10 ans, ça crée des friches. Aux États-Unis, c'est 17 millions de mètres carrés de friches. Est-ce qu'on va vers ça aujourd'hui ? Moi, je le crains. Les friches, on les a en centre-ville, on va les avoir en périphérie aussi. Donc, ça n'est pas raisonnable de créer de nouveaux mètres carrés.
Frédéric Chereau, le maire de Douai, au micro de Claire Chaudière. Malgré ses difficultés financières, le spécialiste français de la carte à puce Gemalto rejette l'offre d'Atos. Le conseil d'administration de l'entreprise a dit non hier soir au motif que le prix proposé était sous-évalué. Un plan social menace toujours près de 10% des emplois de l'entreprise. Si Emmanuel Macron aime répéter qu'il tient ses promesses de campagne, il est un sujet sur lequel il sera difficile de tenir parole. Le chef de l'État a promis de construire 15 000 nouvelles places de prison, sauf que le montage budgétaire pour y parvenir risque de coûter très, voire trop cher à l'État. L'État qui recourt en effet à ce qu'on appelle des PPP, des partenariats publics-privés. Des sociétés privées construisent les établissements, ce sont elles qui investissent, et puis l'État en devient locataire pour des dizaines d'années, avec au bout du compte une facture très salée, au point que la Cour des comptes a rendu un rapport alarmant hier au titre évocateur. Mettre fin à la fuite en avant. Les explications de Sarah Guibaudot.
Oui, les prisons sont surpeuplées, mais la Cour des comptes a sorti sa calculette et l'équation paraît insoluble. Une trentaine de nouvelles prisons, c'est au bas mot 4 milliards d'euros. Il faudrait aussi recruter 13 000 surveillants de plus en 10 ans, alors qu'on manque déjà de candidats. Pour la Cour, il va falloir étaler les projets dans le temps, d'autant que les partenariats publics-privés signés depuis 15 ans, 14 prisons, 2 palais de justice, pèsent de plus en plus lourd. C'était le principe. Faire construire par le privé en échange de 30 ans de loyer et au final payer nettement plus cher. Le gouvernement précédent l'avait déjà compris, mais résilier le partenariat pour le palais de justice de Paris aurait coûté cher en pénalité. Il n'est pas prévu de partenariat dans les prochaines années, souligne la garde des Sceaux. Nicole Belloubet donne rendez-vous au printemps pour la loi de programmation de la justice. Elle devra aussi trouver de quoi rénover l'existant, des bâtiments souvent vétustes faute d'entretien. La Cour note que dans certains cas, il pourrait être préférable de tout reconstruire. La question est à l'étude pour certains tribunaux comme celui de Bobigny.
Sarah Guibaudot. Dans l'affaire Urvoas, la Cour de justice de la République a été saisie hier suite aux révélations du canard enchaîné. L'ancien garde des Sceaux est accusé d'avoir transmis à Thierry Soler une note sur une enquête le concernant. Interrogé sur son cas, l'actuel ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a eu ces mots. Ce sont des faits qui, s'ils étaient avérés, constitueraient, je cite, du point de vue éthique, quelque chose de grave. Un nouveau départ de LR, Nora Béra, l'ancienne secrétaire d'État auprès de Xavier Bertrand à la Santé, a décidé de quitter le parti dirigé par Laurent Wauquiez, invoquant un projet de fermeture où l'outrance, je cite, a pris le pas sur la droite sociale et humaniste.
En bref, à l'étranger, un camouflet pour Theresa May.
La Chambre des communes a adopté hier, grâce à des députés conservateurs, un amendement qui fragilise encore un peu plus la première ministre britannique. Dans sa négociation sur le Brexit, les députés anglais veulent avoir le dernier mot sur ce qui se décidera entre Londres et Bruxelles. L'accord final, pour être appliqué, devra donc être ratifié par le Parlement. Un vote qui tombe au plus mal. Le Conseil européen s'est réuni dès ce soir pour valider la phase 1 du Brexit à Bruxelles. Un chiffre terrible en Birmanie, publié par Médecins sans frontières ce matin. Au moins 6700 Rohingyas, dont 730 enfants de moins de 5 ans, ont été tués entre le 25 août et le 25 septembre dernier, lors du premier mois de la campagne militaire. militaire de l'armée birmane menée dans l'ouest du pays. L'île des Bermudes, elle, s'apprête à rétablir l'interdiction du mariage gay. La Cour suprême du pays l'avait autorisé il y a quelques mois. Il s'agira du premier territoire à faire marche arrière sur ce sujet. Une nouvelle voix d'Hollywood qui s'élève pour dénoncer le comportement d'Harvey Weinstein. La célèbre actrice Salma Hayek raconte dans le New York Times qu'Harvey était, je cite, « mon monstre aussi », expliquant qu'il lui demandait régulièrement de se mettre nu sur le tournage d'un film, Frida, un récit réfuté par les porte-paroles du producteur qui ne se souvient pas, dit-il, d'avoir mis la pression sur Salma. C'est une fusion qui va faire grand bruit aujourd'hui dans le milieu du cinéma américain. Disney s'apprête à racheter la 21st Century Fox, propriété du magnat des médias Rupert Murdoch. La transaction estimée à plus de 60 milliards de dollars pourrait donc être annoncée aujourd'hui, Pierre-Yves Dugas.
Rupert Murdoch, le mogul de 86 ans qui avec ses deux fils contrôle toujours la Fox, est prêt à démanteler l'empire qu'il a mis une vie à construire. Convaincu que seule la 21st Century Fox n'a plus la taille suffisante pour rivaliser avec les énormes budgets de nouveaux concurrents comme Amazon, Netflix, Google ou encore Apple. Le redoutable Murdoch est prêt à devenir le principal actionnaire de Disney en échange de la cession de ses studios de télé, de cinéma, de sa bibliothèque de films, de quelques chaînes câblées à l'exception de Fox News et de ses réseaux de télé par satellite en Europe et en Inde. Disney en profiterait pour enrichir son offre, accélérer surtout le déploiement de plateformes de diffusion de ses films et séries sur Internet. Car le modèle traditionnel de distribution des productions de Hollywood, soit par la télé par câble, soit par les salles de cinéma, paraît voué au déclin. Pierre-Yves Dugas, France Inter.
On revient en France, à Marseille, Sébastien, où la préfecture a décidé de fermer une mosquée salafiste.
Fermeture pour 6 mois au moins. La mosquée Hassouna était dans le viseur des autorités depuis plusieurs années. Accusée d'héberger un imam aux prêches très radicaux, l'arrêté préfectoral doit prendre effet ce matin. Le reportage d'Isabelle Dore.
Sur la porte de la mosquée, l'arrêté préfectoral qui y était affiché a disparu. Et devant, un responsable ordonne aux croyants qui approchent de ne pas répondre aux journalistes. Une injonction que n'a pas entendu ce vieillard.
L'imam, il a tous les jours délivré des messages de paix, d'amour, et il est contre la violence. Alors pourquoi ils nous font tous ces problèmes ?
L'imam de cette mosquée, reconnu comme un leader du courant salafiste, est accusé de prôner notamment la destruction des mécréants, la loi du talion, l'antisémitisme et de pousser les jeunes au djihad. Ce que confirme Abderrahman Roul, le vice-président du conseil régional du culte musulman. Il connaît cet imam depuis plus de 30 ans.
Je le mets en garde par rapport à ses discours. Mais malheureusement, il n'écoute pas. Il y a des choses qu'on a condamnées tous, alors que lui, il ne les condamne pas. Par exemple, lorsqu'on incite les gens à quitter la France. Dire que c'est un pays de mécréants, c'est des messages de haine. Au moment où nous, on essaye de véhiculer un message de vivre ensemble.
Il est très écouté, cet imam ?
Il est très écouté par ses fidèles. C'est des adeptes, c'est pas des fidèles. Et d'ailleurs, si vous passez le vendredi, vous voyez que des femmes voilées, des barbudes, c'est inquiétant.
Plus inquiétant encore, les messages de haine et de violence de l'imam salafiste sont relayés par les jeunes jusque dans les écoles du quartier. Marseille, Isabelle Dore, France Inter.
Un mot de sport avec les déclarations de Chris Froome sur la BBC. Le quadruple champion du Tour de France réfute toute intention de dopage après son contrôle anormal au salbutamol, la molécule supposée traiter son asthme. Je comprends que cela puisse être un grand choc, mais je n'ai enfreint aucune règle. Allez, on termine avec une voix inusée qui traverse elle aussi les générations depuis 70 ans. Celle de Charles Aznavour. Le chanteur était hier soir pour la première fois à Bercy. 15 000 spectateurs sous le charme du grand Charles. 94 ans et une forme olympique. Mathieu Culeron a assisté au concert.
Il y a quelque chose de fascinant à voir le protégé d'Edith Piaf faire salle comble à Bercy, le vibrato infatigable et la hargne intacte. Quand c'est l'heure des classiques, Charles a déjà fait tomber sa veste, arbore des bretelles rouges et fait des blagues sur son prompteur.
Quand vous me verrez me pencher comme ça, c'est que je suis en danger. Je serai comme ça.
À la fin du concert, son public de tous âges n'en croit toujours pas ses yeux et ses oreilles.
Moi, je l'ai vu l'année dernière, il y a encore plus de voix que l'année dernière. C'est incroyable, hein.
Ah, c'était top, moi, c'est un de mes artistes préférés. Surtout le fait qu'il ait toujours cette passion et ce feu en lui.
Moi, j'ai trouvé sensationnel, mais moi, je l'aime depuis qu'on disait qu'il chantait mal.
Elle a 90 ans et puis c'est pour son anniversaire qu'on a été avoir Aznavour.
Je l'ai toujours aimé, toujours.
J'espère que moi, à 94 ans, je serai comme ça. Il est énorme, voilà.
Charles Aznavour qui se souvient de ceux qui lui ont prodigué des conseils de scène à ses débuts.
Piaf m'a dit, si t'as pas de chanson d'entrée, commence par la deuxième. Il traînait, non, il m'a rien dit, j'ai tout pris.
Charles Aznavour, 93 ans et demi hier à l'Accor Hotel Arena, et la sensation qu'il peut encore nous mener où il veut, quand il veut.
On se ferait bien emmener encore effectivement par l'inépuisable Charles Aznavour qui sera en concert l'année prochaine le 20 janvier à Lyon et le 23 à Marseille.
Merci Sébastien Legénie.